Merci Seigneur parce que c'est toi et toi-même qui nous a accueillis ce matin. Et merci d'avoir reçu ces chants comme une offrande de nos cœurs. Seigneur, on te remercie aussi pour ce que tu as mis dans le cœur d'Ernest, pour ce qu'il va partager avec nous. Donne-lui de la joie à nous transmettre, Seigneur, ce que tu veux qu'on entende. Aide-nous à mettre de côté ce qui peut nous perturber, ce qui prend en otage nos cœurs, nos esprits, afin qu'on puisse se concentrer pleinement sur ce que tu as à nous dire. Merci parce que tu es un Dieu qui te sauve, qui transforme des vies encore aujourd'hui, et que tu veux le faire pour chacun d'entre nous. Merci aussi pour les enfants, merci pour ce moment privilégié aussi qu'ils ont ce matin. Voilà, révèle-toi à eux, Seigneur, tu veux une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et voilà, touche toute cette jeunesse qui est là en bas. Bénis aussi les moniteurs, monitrices qui ont préparé, Seigneur, que eux aussi en bas aient de la joie, Seigneur, à transmettre ce qui vient de toi. En ton nom, amen. Merci d'être venu depuis Neuchâtel. À toi la parole.
Bon, bien le bonjour à chacun. Très heureux d'être parmi vous ce matin et merci pour votre invitation. Et Doris salue tout le monde qu'elle connaît, elle n'a pas pu venir ce matin. Alors, en effet, j'aimerais parler de notre identité. Quand tu te regardes dans le miroir, quelle image as-tu de toi-même ? Positive, négative, as-tu parfois l'impression d'être un nul, un raté, un bon à rien, ou alors un Superman qui pense que sans toi le monde n'existerait pas? Quelle opinion as-tu de toi-même? C'est plus facile de se regarder dans le miroir le matin, dans la fleur de l'âge, quand on est jeune et beau, que quand les rides commencent à creuser notre visage. Vous connaissez tous l'histoire de Blanche-Neige et des sept nains. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Le miroir répondit, « Reine, tu es la plus belle, mais Blanche-Neige, au pays des sept nains, bien loin, est mille fois plus belle. » Le miroir révèle certaines choses, mais le miroir ne dit pas tout. Nous avons un autre miroir, la parole de Dieu. Et lui montre autre chose que le miroir de notre salle de bain. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 7, nous lisons « Je ne juge pas comme les êtres humains, dit le Seigneur. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'apparence d'une personne, mais c'est l'intérieur d'une personne. Et je vous invite à lire dans Éphésiens 1, versets 1 à 7. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Et nous pouvons personnaliser ces salutations de Paul, car elles nous sont adressées aussi à nous personnellement ce matin. Il dit ainsi, moi, Paul, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouve à la Servette en ce dimanche matin 28 avril et qui croit au Christ Jésus. Et la parole nous parle à chacun d'entre nous personnellement. Verset 2. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Et ce matin, Dieu notre Père désire nous bénir et nous donner sa paix. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui est troublé ce matin, qui passe par des épreuves, par des doutes, par des difficultés. Et ce que le Seigneur désire vous donner ce matin, c'est la paix que seul lui peut donner. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Tellement la bonté de Dieu est grande. Et parfois je suis surpris que notre Dieu, mon Dieu, se soit intéressé à une personne telle que moi. Mais tellement sa bonté est grande, il a même consenti de sacrifier son Fils à la croix. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de nous savoir aimés de toi. Nous voulons te remercier parce que depuis toujours tu as voulu que nous devenions tes enfants par Jésus-Christ. Et merci parce que le sang de Jésus nous libère du mal et pardonne nos péchés. Oui, merci pour ton amour et donne-nous ce matin de comprendre cela, de comprendre ce que nous sommes en toi et que nous sachions te louer et te bénir. Amen. Savez-vous qui vous êtes? Qui es-tu? Qui suis-je? Drôle de question, n'est-ce pas? Qui suis-je? Si je ne sais pas qui je suis, oh, c'est grave. Il me faut au plus vite aller voir un médecin, un psy. Pourtant, beaucoup de personnes connaissent mal leur identité, d'où elles viennent, qui elles sont vraiment. Et savoir qui nous sommes dans cette vie est important. C'est primordial pour pouvoir bien vivre. Edmond un jour m'interpelle et me dit « Moi, je t'ai déjà vu quelque part, mais je ne te connais pas. J'aimerais bien savoir qui tu es. Qui es-tu ?»« Moi, je suis Ernest Eicher. » Non, ça c'est seulement ton nom. Ça ne me dit pas qui tu es vraiment. Dis-moi qui tu es. Bien, je suis Suisse et fier de l'être. Non, ça c'est ta nationalité. Dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que je peux encore lui dire? Bien, je suis pasteur à la retraite. Non, c'est pas ce que je veux savoir. Ça c'est ton statut social. Dis-moi qui tu es. Ah, je suis chrétien évangélique. Je fréquente l'église évangélique de la Servette. Non, ça c'est ta religion. Qu'est-ce que j'ai encore lui dire? Je pourrais lui dire que je mesure 1m74, que je pèse 118 kilos, peut-être un petit peu moins, que je chausse du 43, que j'ai deux hanches artificielles. Toutes ces choses me décrivent un peu, mais ne disent pas qui je suis réellement. Si l'on amputait mes deux jambes et mes deux bras, est-ce que sans mes jambes et sans mes bras, je serais encore moi? Bien sûr que oui. Si l'on me greffait un nouveau cœur et de nouveaux reins qui feraient circuler mon sang dans les artères et dans les veines et qui purifieraient mon sang, est-ce qu'avec les reins et le cœur d'une autre personne, est-ce que je serais encore moi? Bien sûr que oui. Ce qui détermine ce que je suis, ce n'est pas mon statut social, ni mes succès, ni mes échecs, encore moins la couleur de ma peau, c'est mon intérieur, c'est mon âme, c'est mon esprit. Et c'est intéressant, hein? Pour notre corps, on fait tout. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Il y en a même qui font de la chirurgie esthétique et ça coûte cher. Et beaucoup ne se préoccupent pas de leur âme, de leur esprit, de leur être intérieur. Et pourtant, c'est ça qui est le plus important. Avant la chute, tout au début de l'humanité, notre identité découlait d'une dépendance harmonieuse, étroite et intime avec le Créateur. L'homme était complètement connecté et identifié à Dieu. À ce moment, l'homme était complètement satisfait. C'était l'harmonie parfaite. L'homme était comblé, pleinement satisfait. Pourquoi? Parce qu'il était relié avec son Créateur. Et malheureusement, le mauvais choix de nos premiers parents a eu pour comme conséquence que l'humanité était séparée de son Créateur. Le lien qui l'unissait à Dieu a été brisé. Alors l'homme, livré à lui-même, a perdu son identité première et est devenu l'esclave de l'ennemi de Dieu, de Satan. Et c'est dramatique de rencontrer tellement de personnes aujourd'hui qui, malgré une bonne éducation, malgré de brillantes études, formées dans les meilleures écoles, ne savent pas qui elles sont vraiment. Quel est le but de leur existence? Étant déconnectées de Dieu, elles sont comme livrées à elles-mêmes. Et nous ne pouvons pas assez remercier notre Dieu de ne pas nous avoir laissés dans cet état d'ignorance et de mort spirituelle et de s'être révélé à nous au travers de Jésus-Christ révélé dans la parole de Dieu. Jésus est venu enlever notre péché, il est venu nous arracher des griffes de Satan et nous relier à Dieu. Et aujourd'hui, quiconque le reconnaît comme sauveur et seigneur de sa vie devient enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous avons lu dans Éphésiens, « Depuis toujours, Dieu a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. » Par le moyen de Jésus, Nous pouvons retrouver notre identité première. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? On devrait dire Alléluia! Dans notre vie ici-bas, nous avons deux possibilités. Être lié soit au Dieu de ce monde et à ses valeurs, c'est-à-dire à Satan, soit à Jésus-Christ qui, par son sacrifice, nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Alors maintenant, si je vous pose la question, qui es-tu? Quelle est ton identité? À qui ou à quoi es-tu relié? Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? C'est à toi de répondre. Dès le moment où nous prenons conscience de notre péché, de notre perdition, et que nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Mais il faut passer par là. Reconnaître que nous sommes pécheurs et séparés, et condamnés. Pour ma part, ça fait plus de 55 ans que je suis devenu enfant de Dieu. Et malgré mes fautes, malgré mes écarts, il y en a eu, je suis toujours et encore enfant de Dieu. Après plus de 55 ans, je suis encore et toujours enfant de Dieu. Et quoi qu'il advienne, je serai toujours son enfant. Quelle sécurité! Quelle sécurité! Quelle paix! Voyez combien le Père nous aime. Oui, il t'aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Non pas nous le serons, mais nous le sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes. Il n'a pas non plus reconnu le Christ. Oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons alors tel qu'il est. Devenir chrétien, ce n'est pas seulement recevoir quelque chose de plus, c'est devenir quelqu'un que nous n'étions pas auparavant. Un chrétien n'est pas seulement une personne qui reçoit le pardon de ses péchés, ce qui est extraordinaire. Ce n'est pas seulement une personne qui peut aller au ciel, qui reçoit le Saint-Esprit, qui reçoit une vie nouvelle, qui reçoit une nouvelle nature. Neil Anderson dit que un chrétien, en ce qui concerne son identité la plus profonde, est un saint. Et nous pouvons dire, Raymond, tu es une sainte. Elle fait comme ça. Et pourtant, Raymond, c'est une sainte, et Paul, c'est un saint, et Michel, c'est un saint, et tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie et qui sont devenus enfants de Dieu, vous êtes déclarés saints, sans défaut. C'est ainsi que Dieu nous voit au travers du sacrifice de Jésus. Donc, un chrétien, dans son identité la plus profonde, est un saint. Un enfant de Dieu né spirituellement, un chef-d'œuvre divin, un enfant de lumière, un citoyen du ciel. Le fait d'être né de nouveau nous a transformés pour devenir quelqu'un que nous n'étions pas auparavant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et en notre qualité de chrétien, nous recevons le pardon de nos péchés, recevons la vie éternelle, le droit d'aller au ciel, et ces réalités sont très importantes de nous les approprier. Mais une chose très importante que nous devons aussi nous approprier est de savoir qui nous sommes maintenant au travers du sacrifice de Christ. Nous, chrétiens évangéliques, nous avons l'habitude de dire que nous sommes de pauvres pécheurs sauvés par grâce. Vous êtes d'accord? Que nous sommes de pauvres pécheurs sauvés par grâce. Selon notre nouvelle identité, sommes-nous vraiment encore des pécheurs? Oui. Sommes-nous encore considérés comme tels par celui qui nous a sauvés? Est-ce ainsi que Dieu nous considère? Pas du tout. Pas du tout. La Bible, que nous dit-elle? Qu'en Jésus, nous sommes des saints. Pas seulement Raymond, mais chacun d'entre nous qui sommes maintenant enfants de Dieu. Des saints qui, malheureusement, et je constate dans ma vie, beaucoup trop souvent, des saints qui sont encore capables de commettre des péchés. Malheureusement. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça m'émeut toujours de lire des passages comme celui-là. Qui que nous ayons été dans le passé, quoi que nous ayons fait dans le passé, quand nous sommes tournés vers Jésus-Christ, eh bien la page s'est tournée. Nous sommes pardonnés, nous sommes lavés, nous sommes déclarés justes, saints. L'ardoise est effacée. Peu importe ce que les Corinthiens étaient auparavant, leur conversion, Dieu peut sauver un pécheur de n'importe quel péché, de tous les péchés. Et pour Dieu, il n'y a pas de petit, de grand péché. Chaque péché est péché. Et ce qui est important de comprendre, c'est le statut du croyant après sa conversion. Après sa conversion, le croyant est déclaré saint. Sa nouvelle vie, sa nouvelle identité, sa nouvelle nature est parfaite. L'œuvre opérée en lui est parfaite. Il n'en peut être autrement, car tout, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas nos pénitences. Ce n'est pas ce que nous aurons pu faire, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre que le Seigneur a opérée dans la vie du croyant, dès le jour où il s'est tourné vers lui, est parfaite. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à améliorer. Je suis désormais un enfant de Dieu pleinement accepté. C'est de la présomption ? Non, c'est lui qui le dit. Est-ce que je peux, par mes efforts, par exemple, en lisant davantage la Bible, pas seulement 10 chapitres par jour, mais 100 chapitres par jour, est-ce que je peux, en priant davantage, en priant à genoux pendant des heures, devenir ainsi plus acceptable, davantage enfant de Dieu que je le suis déjà ? Non, je suis déjà pleinement enfant de Dieu, pleinement pardonné, je le suis par naissance spirituelle. Par contre, ce que je peux et ce que je dois améliorer, c'est ma relation avec Dieu. En veillant d'entretenir avec lui une relation de soumission, d'obéissance et d'amour. Puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Marcher comme Jésus lui-même a marché. Il est notre modèle. Votre modèle, ce n'est pas votre pasteur, bien qu'il doit aussi être un modèle. Mais notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et nous devons marcher comme lui-même a marché. Un jour, un pasteur a demandé, comment dois-je faire pour quitter mon église ? J'espère que ce ne sera pas le cas, ou la question de votre pasteur. Hein. Que dois-je faire pour quitter mon église ? Pourquoi voulez-vous la quitter ? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre église ? Ah, dans mon église, je n'ai qu'une bande de perdants. Des perdants ? Est-ce qu'ils sont vraiment des perdants ? Ou est-ce qu'ils se considèrent comme des perdants parce que vous, vous les prenez pour des perdants ? Certainement que la dernière observation est la bonne, car il n'y a pas de perdants dans le royaume de Dieu. Comment un enfant de Dieu, faisant partie du royaume de Dieu, pourrait-il être considéré comme un perdant ? Or, c'est important de voir les autres, mon frère, ma sœur en Christ, comme Dieu les voit. Il les voit exactement comme il me voit moi-même. Il a fait de nous ses enfants, rachetés par le sang précieux de Jésus, son Fils bien-aimé. Et maintenant, en vertu de son œuvre merveilleuse, bien, il est en train d'opérer une œuvre merveilleuse en nous. Et nous sommes appelés tous enfants de Dieu, en qui le Saint-Esprit est en train d'accomplir une œuvre fantastique. Nous sommes des saints, en qui il y a beaucoup d'espoir. Si je perçois les gens comme des perdants, je vais les traiter comme tels. Ils vont agir comme des perdants. Comment exprimons-nous notre perception des autres ? Principalement par ce que nous leur disons. Et des études, j'ai lu cela, que des études ont démontré que dans une famille moyenne, pour chaque remarque positive, un enfant reçoit 10 remarques négative. Mais j'espère que ce ne sera pas dans ta famille. Que tes enfants reçoivent 10 remarques négatives pour une remarque positive. À l'école, ce n'est pas mieux. Les élèves entendent 7 remarques négatives de leur professeur pour chaque remarque positive. Et ces études indiquent qu'il faut 4 remarques positives pour neutraliser une remarque négative. Alors si dans votre famille il y a 10 remarques négatives, il faut Combien de remarques positives? Une tonne, hein? Marie va acheter une nouvelle robe. Et certains vont lui dire, « Mais quelle belle robe tu as achetée! Fantastique !» Il suffit d'une seule remarque négative du genre, « Mais Marie, c'est vraiment pas ton style, cette robe, ça te va pas du tout !» pour que Marie ait envie de courir le plus vite possible au magasin, rendre la robe si c'était possible. Nos paroles ont beaucoup d'effet sur les autres. Quelqu'un a dit que si nous devions mémoriser un seul verset de la Bible, le mettre en pratique et ne jamais l'enfreindre, nous pourrions résoudre les trois quarts des problèmes que nous rencontrons à la maison et à l'église. Et ce verset, c'est celui-ci. Verset très important. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Désirez-vous faire du bien autour de vous? Vraiment? Alors ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Si de notre bouche ne sortait aucune parole pour dénigrer et abaisser les autres, mais uniquement des paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent, alors nous ferions partie de l'équipe de construction et pas de démolition. Alors j'espère que personne ici fasse équipe avec les démolisseurs, mais plutôt l'équipe de ceux qui veulent construire et qui veulent encourager. Une enquête a été faite auprès de 50 chrétiens avec cette question. Parmi les mots suivants, combien s'applique à votre vie? L'insécurité, l'infériorité, l'incapacité, la culpabilité, l'inquiétude, le doute. Et toutes les 50 ont répondu connaître dans leur vie les 6. L'insécurité, se sentir inférieur, incapable, coupable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé aussi. Vivre dans l'inquiétude et le doute. Et c'est assez tragique pour des chrétiens que de vivre dans la défaite, habité par un esprit d'infériorité qui les bloque, qui les neutralise. Sommes-nous freinés dans notre croissance parce que nous nous sentons inférieurs? Mais je te pose la question. En quoi es-tu inférieur? Dieu déclare que tu es un enfant de Dieu. Non seulement assis dans cette salle, sur une chaise bien confortable, mais assis, où cela? Avec Christ, dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parole vivante transcrit ainsi, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste, en nous donnant notre place sur un tabouret. Non, pas sur un tabouret. Ce n'est pas ce qui nous attend, mais sur le trône avec le Christ, mais vous vous rendez compte, quel honneur. Avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas, mais qui est dans le paradis de Dieu. Te sens-tu inférieur? Étant spirituellement assis sur le trône avec Christ, dans les lieux célestes? Mais pas du tout. Te sens-tu dans l'insécurité? Que dit la parole? Jamais Dieu ne t'abandonnera, ni te délaissera. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. » Oui, si nous étions ce matin au Sri Lanka, est-ce qu'on serait aussi paisible que nous le sommes ce matin, ici à la Servette? Est-ce que notre Dieu a-t-il abandonné nos frères et sœurs au Sri Lanka qui ont perdu leur vie ici-bas, mais qui l'ont retrouvé là-haut? Et si nous sommes spirituellement assis sur le trône avec Jésus, eux le sont, ne pas virtuellement, ils le sont vraiment, assis sur le trône avec Jésus dans la gloire. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Je ne veux pas dire rien. Non, eux n'ont rien perdu. Ceux qui ont perdu, c'est peut-être la famille, c'est les proches, parce qu'ils ne sont plus là. Mais eux, ils ont tout gagné. Te sens-tu incapable? Que dit la parole? Que tu peux tout faire par Christ. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Alors, qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul était fait de chair et d'os comme nous. Et s'il peut écrire cela, je peux tout, non pas par moi-même, mais par Christ qui me rend fort. Et la force de Christ, c'était Jésus dans sa vie. Et nous avons le même Dieu. Nous avons le même Sauveur que l'apôtre Paul. Te sens-tu coupable? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'ardoise est effacée. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de condamnation. Parce que Jésus-Christ a payé pour nous. Te sens-tu inquiet? Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Doutes-tu? Ça vous arrive de douter? Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Bien que nous puissions nous conduire avec sagesse, de ne pas écouter notre cœur naturel, mais de mettre notre confiance dans le Seigneur. En Christ, nous avons une nouvelle identité, une nouvelle nature. Donc, tu n'as plus besoin de te sentir inférieur, dans l'insécurité, incapable ou coupable, inquiet, plus besoin de douter. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et marcher selon la volonté de Dieu. Je pose à nouveau la question, qui suis-je? Qui es-tu? Si tu as Christ dans ta vie, tu es déclaré saint. Tu es un saint, un enfant de Dieu né spirituellement, un chef-d'œuvre divin, un enfant de lumière, un citoyen du ciel, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puissions-nous, dans cette nouvelle semaine qui est devant nous, nous souvenir qui nous sommes réellement en Christ. Et vivre étant connecté avec le ciel, non pas avec les étoiles, mais avec Jésus, notre Sauveur. Et que rien ne vienne assombrir notre communion avec lui. Et si nous devons passer par des difficultés, souvenons-nous qu'il est avec nous pour nous secourir chaque jour. Jésus nous avertit que tant que nous sommes ici-bas, sur cette terre, bien nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés. Nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et nous sommes, et nous pouvons être, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne te délaisserai pas. C'est où ça? Ici. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il est avec nous, chaque jour de notre vie. Bien que le Seigneur vous bénisse dans votre marche chrétienne, et que nous puissions être ses témoins ici-bas et faire la différence. Et parfois je m'étonne, en voyant tant de chrétiens, et parfois je fais partie d'eux, qui... Voilà. Ils sont là, dans ce monde, ils ne font pas la différence. Mais nous, nous devons faire la différence. Car nous avons une espérance dans notre cœur. Nous avons des réalités sûres, nous avons un fondement sur lequel nous n'avons pas besoin de trembler, mais qui nous donne sécurité, confiance, et de nous réjouir que bientôt, bien, là où nous sommes déjà spirituellement, nous allons rejoindre le trône avec Christ. Merci pour votre écoute.